Le journal avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous intéresserons une fois de plus à la campagne de vaccination en France. Où en est-on en particulier dans les EHPAD? Quelles sont par ailleurs les conséquences économiques liées aux incertitudes sanitaires qui perdurent actuellement alors qu'un jeune sur cinq est aujourd'hui au chômage? Les députés doivent notamment débattre dans l'hémicycle cet après-midi du plan gouvernemental pour la jeunesse lancé au milieu de l'été et prolongé jusqu'à la fin mars.
Et puis toujours, s'agissant de l'épidémie, et dans votre journal Thomas, une étude américaine avance que l'immunité au Covid-19 pourrait durer au moins 5 mois et même jusqu'à 7 mois après la première infection.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré dans les Hauts-de-Seine.
L'actualité à l'étranger, aux États-Unis tout d'abord.
Oui, à quelques jours de l'investiture de son successeur, Donald Trump a choisi de replacer Cuba sur la liste américaine des États parrains du terrorisme. Et puis nous nous rendrons à Jérusalem où pour la première fois, une ONG israélienne accuse dans un rapport publié aujourd'hui l'État hébreu d'entretenir un régime d'apartheid. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
C'est une autre conséquence de la crise sanitaire, l'aggravation des dettes. Et c'est une spécialiste des dettes souveraines que nous recevons dans la deuxième partie de l'émission. Elle est conseillère économique auprès de nombreux dirigeants, de nombreux États partout dans le monde. C'est Anne-Laure Kichel qui sera avec nous. L'État est-il un malade imaginaire de la dette? On en parlera dans une vingtaine de minutes.
Avec le vaccin contre le coronavirus, l'espoir est là. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron avait souhaité, lors de ses vœux, redonner de l'aspiration aux Français après une année bouleversée par la crise sanitaire. Sauf que depuis, la mise en œuvre de la stratégie vaccinale du gouvernement aura surtout hésité entre effets de retard et désordres de communication, le tout sur fond de défis logistiques, sans oublier l'irruption de nouveaux variants. Toujours est-il qu'hier soir, le ministère de la Santé a indiqué qu'après un peu plus de deux semaines, 138 351 personnes avaient donc été vaccinées en France. Parmi les publics prioritaires, comprenez les personnes en unité de soins de longue durée, l'ensemble des soignants, aides à domicile et pompiers de plus de 50 ans, mais aussi les personnes handicapées, vulnérables et bien sûr les résidents des EHPAD. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez justement assisté ce matin à une conférence de presse des établissements pour personnes âgées. On se souvient qu'au début de cette campagne de vaccination, la question avait été posée de l'existence d'un délai dû au recueil obligatoire du consentement des patients ou de leur entourage. Ce matin, la présidente de la Haute Autorité de Santé a de nouveau réfuté l'existence d'une telle recommandation. Quoi qu'il en soit, Laura, une chose est sûre, les EHPAD réclament toujours et encore d'accélérer la vaccination.
Oui, alors le processus est bel et bien lancé dans les EHPAD, même si le CINERPA, le premier représentant des EHPAD privés, note, je cite, quelques cafouillages lors de la première semaine, avec des inconnus sur les dates de livraison des établissements. Mais pour ce qui est des premières injections, le calendrier est désormais clair. Cela prendra entre 3 et 4 semaines pour les 7000 EHPAD, avec une très grosse semaine à prévoir à partir du 18 janvier. En revanche, beaucoup moins de visibilité quant à la deuxième injection. Certes, l'Agence nationale du médicament affirme que la deuxième dose du vaccin Pfizer peut être décalé de 21 à 42 jours après la première dose, mais les EHPAD préféreraient avoir la recommandation directement de Pfizer sur la question qui garantirait la même efficacité du vaccin. Les professionnels du secteur demandent aussi des livraisons régulières sur le long terme, et oui, car il n'y aura jamais 100% de vaccinés dans un établissement. Il y aura toujours de nouveaux résidents, salariés ou intervenants. Et puis surtout, le syndicat appelle à étendre la vaccination à tout l'écosystème des EHPAD. Ça signifie les résidents, les salariés, les aidants, les familles, les intervenants extérieurs. Le syndicat qui regrette de ne vacciner qu'une quarantaine de personnes en trois jours, là où le dispositif d'un établissement permettrait d'en vacciner une centaine. Profiter de ce plateau technique, ce serait doubler la vaccination selon les professionnels. Et même à terme, une fois tout l'écosystème des EHPAD vaccinés, ces plateaux techniques pourraient accueillir dès février des personnes de l'extérieur, par exemple les plus de 75 ans en ville. Et oui, car 7000 EHPAD, c'est plus que les 6 en centre de vaccination prévu pour la fin janvier. Alors, estime le syndicat, autant faire profiter les citoyens de la proximité des EHPAD qui seront déjà rodés à la vaccination.
Merci Laura Dulieu. La rapidité de la vaccination, justement, voilà de quoi dépendra pour partie le redressement de l'économie en cette année après un plongeon attendu de 11% en 2020, a prévenu ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui, lors de ses vœux à la presse, a justement profité de cet exercice de communication imposé, Marie Viennot, pour prévenir qu'atteindre une croissance de 6% en 2021 relèverait du défi.
L'état financier a été rapide, efficace, attentif, estime le ministre des Finances. En 2020, le produit intérieur brut s'est effondré de 11%, mais le pouvoir d'achat s'est maintenu. C'est pour Bruno Le Maire la preuve que l'action de son ministère a porté ses fruits. 6% de croissance prévue en 2021, il reconnaît que c'est un défi et que cela dépendra de la vitesse de vaccination sur laquelle il n'a émis aucun jugement. La situation sanitaire étant incertaine, les entreprises doivent avoir de la visibilité sur les dispositifs de soutien. Le ministre a confirmé le redimensionnement de certaines aides, notamment le fonds de solidarité, dont le plafond pourrait passer de 200 000 à 3 millions d'euros par mois pour les secteurs fermés, ce qui permettra de ne pas exclure les chaînes de restaurants, d'hôtels et de sports. Bruno Le Maire.
Parce que je crois vous avoir toujours dit que cette crise, pour moi, durerait longtemps et donc il fallait être prévoyant et anticiper la nécessité, pour certains secteurs, de maintenir des aides importantes. Le rétablissement des finances publiques, je le redis, viendra quand la crise sanitaire sera derrière nous. On ne va pas refaire l'erreur qui a été faite en 2008, 2009 et 2010.
Années pendant lesquelles la volonté de réduire les déficits avait bridé la croissance. Le soutien de l'économie, quoi qu'il en coûte, c'est donc bien toujours la doctrine qui prévaudra en 2021, mais pas pour tous les secteurs. 2021 sera l'année du difficile ciblage des aides et pour un grand nombre d'entreprises de leur arrêt. C'est donc aussi une année à haut risque, celle du retour progressif à la normale ou des faillites en cascade. Elles ont chuté de 30% en 2020. Il y aura donc un effet rattrapage, admet le ministre, qui dit ne pas partager le pessimisme ambiant à ce sujet.
Et s'agissant justement des dispositifs de soutien, c'est cet après-midi que les députés doivent débattre dans l'hémicycle du plan gouvernemental pour la jeunesse. Un vaste plan baptisé Un jeune, une solution, lancé au milieu de l'été et prolongé jusqu'à la fin mars. 7 milliards d'euros au total versés donc aux entreprises qui embauchent dans cette période de crise. Sauf que l'argent tarde à venir, de l'aveu même du ministère du Travail, dépassé par le succès de son plan. À peine plus d'un quart des dossiers déposés par les entreprises ont été validés et payés. Alors face à la polémique, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a assuré que les toutes premières primes à l'embauche d'apprentis seront versées d'ici le 5 février. C'est ainsi qu'à la CPME, Marie Dupuis-Courte croise désormais les doigts. La vice-présidente du syndicat patronal en charge de la formation est elle-même chef d'entreprise dans le bâtiment et en attente de recevoir les aides donc pour l'embauche d'un apprenti.
Je ne peux pas croire qu'on annonce que 300 000 dossiers vont être traités d'ici le 5 février si on n'a pas déjà organisé. Sinon, dès le 6 février, elle risque d'avoir un afflux d'appels au ministère disant que les personnes attendent toujours. Clairement, le service aujourd'hui de l'ASP, de l'Agence de services des paiements, est complètement saturé. Voilà, ils ne répondent plus aux demandes. Nous avons recruté un jeune au 1er septembre et on a fait la demande courant octobre pour bénéficier de la prime à l'embauche, donc des 4 000 euros. Et notre dossier est toujours marqué en attente d'instruction. Et puis, on a 2 contrats d'apprentissage sur les 6 qu'on a dans l'entreprise aujourd'hui qui ne sont toujours pas enregistrés. Je pense que les dossiers vont être traités. Je comprends qu'il y a un afflux et qu'il y a plus d'apprentis, plus de tout ça. Donc, j'essaie d'être patiente parce qu'aujourd'hui, ça ne met pas en péril ma société. Mais j'ai des confrères qui, eux, ont tout simplement écrit au préfet pour demander l'activation parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que d'aller taper au plus haut niveau de l'État pour avoir une chance de voir son dossier remonter au-dessus de la pile.
Voilà, Marie Dupuis-Courte, vice-présidente de la CPME. Elle répondait à Thomas Giraudot. Voilà qui devrait peut-être enfin donner de l'espoir selon une étude de chercheurs américains publiée dans la revue scientifique Science. L'immunité au SARS-CoV-2 pourrait durer jusqu'à 8 mois après la première infection. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré dans les Hauts-de-Seine. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Bénédicte Robin. Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous.
Une première question, Monsieur Davido. La question de l'immunité des patients infectés et des risques donc de nouvelles contaminations est évidemment une inquiétude depuis le début de cette pandémie. Est-ce que cette étude, de ce point de vue, est rassurante d'après vous ? Pour faire simple, est-ce que cela signifie qu'une fois malade puis guéri, on est protégé contre le Covid-19 ?
Alors d'abord, cette étude, elle vient en complément d'une étude publiée dans Nature récente qui retrouvait à peu de choses près les mêmes résultats. Et il faut savoir que cette étude a la particularité de nous montrer qu'au-delà des fameux anticorps qu'on peut se faire doser ici tous les jours dans les laboratoires pour ceux qui ont déjà fait la maladie, que même si on n'a plus d'anticorps, eh bien on a une mémoire de l'immunité, c'est-à-dire que le système immunitaire est capable de se réveiller et de lutter contre la Covid pour 95% des individus qui ont fait la maladie. Et dans les 8 mois, et peut-être que dans 2 mois, on vous dira dans 10 mois, parce que 8 mois, c'est le délai qu'on a aujourd'hui face à cette récente épidémie pour attester de la durabilité de cette immunité.
Mais cette immunité, elle nous protège contre la maladie ou contre une forme grave de la maladie ?
Elle protège contre les deux, en général, c'est-à-dire contre le fait de refaire une infection, c'est-à-dire que vous allez activer votre système immunitaire qui va lutter contre l'infection et empêcher de faire une forme sévère. Et ce qui est bien expliqué dans cette publication, c'est que les rares cas qu'on a rencontrés de réinfection sont probablement dus justement à cette fraction de 5% d'individus qui vont faire soit une forme dite asymptomatique, si vous faites une forme sans symptômes, c'est-à-dire que vous avez juste un portage du virus, eh bien vous n'avez pas d'immunité parce que le virus passe, vous l'observez, vous ne créez pas d'immunité, mais à partir du moment où vous avez fait une infection, et de ce d'autant plus qu'elle est sévère, votre immunité va durer durablement. La véritable question, c'est combien de temps ? Dans des scénarios extrêmement optimistes, quand on regarde pour le SARS-CoV-1, c'est-à-dire le premier corona qui avait sévi en 2003 à Hong Kong, on sait qu'il y a des individus qui ont de l'immunité jusqu'à 20 ans, parfois, en tout cas plus de 10 ans d'immunité. Et donc, la bonne nouvelle finalement derrière tout cela, d'abord, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence pour ceux qui ont déjà fait la maladie, et ça c'est bien écrit, hein, et les recommandations américaines, c'est de ne pas revacciner ceux qui ont fait un Covid symptomatique dans les 6 mois. Et ça nous fait penser que le vaccin devrait être tout aussi immunogène et donc on va partir probablement sur une immunité vaccinale d'au moins une année.
Mais là, vous faites bien la différence entre symptomatique et asymptomatique. Si on a fait un Covid asymptomatique,
absolument.
On n'est pas immunisé.
On ne rentre pas dans ces données-là. On ne rentre pas dans ces données-là et on n'est pas immunisé parce que ça, c'est bien démontré. Plus on a une réponse clinique avec des symptômes, plus on va stimuler son système immunitaire. Et pour les individus asymptomatiques, on le sait bien, hein, c'est des études même sur les anticorps circulants qui ont montré qu'une partie des gens qui avaient fait des formes asymptomatiques n'ont pas d'immunité face à la maladie. Alors il se trouve que la bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'on sait que les gens qui font des formes asymptomatiques sont souvent des individus jeunes en bonne santé et qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu pour eux de faire une forme grave de la maladie. La problématique, c'est qu'on reste en contaminant, d'où le bénéfice et l'intérêt d'une vaccination. Vaccination en population générale.
Et la vaccination, justement, est-ce qu'elle va permettre cette même immunité ? Est-ce que c'est cet espoir-là qu'il y a ? Une immunité
oui,
de 8 mois,
pour hein, je veux dire. Oui, oui, de 8 mois, et encore et une fois, probablement plus. C'est-à-dire 8 mois, c'est parce qu'on a 8 mois de recul. Très clairement, ce dont on peut se féliciter, c'est que cette nouvelle technologie des vaccinations ARN messager, tant décriée par certains, elle nous permet d'avoir une immunité qui est extrêmement proche de l'immunité naturelle. Parce que, en fait, c'est vous qui synthétisez vous-même le vaccin face à l'agent infectieux, au même titre que si vous aviez fait la maladie, sauf qu'on vous empêche d'avoir la partie du virus qui donne la maladie et qui est donc contagieuse au sens littéral du terme. Et donc, on peut imaginer que ces données permettent de calquer et d'anticiper l'efficacité du vaccin. Et c'est ça, finalement, la bonne nouvelle dans tout cela.
Mais il y a quand même un bémol, c'est que le virus peut s'adapter. On le voit, on l'a vu, il y a des variants, comme ceux qu'on a vu apparaître donc en Angleterre ou au Royaume-Uni. Est-ce que ça fait baisser cette immunité possible ?
Non, ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Les variants, d'abord ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que ces variants, c'est le virus lorsqu'il se multiplie, c'est une erreur de recopiage, comme un élève qui va recopier une dictée, qui va faire une faute d'orthographe, et que normalement les virus sont équipés de ce qu'on appelle des enzymes appelées polymérases, qui sont correctrices, comme si vous mettiez un coup de Tippex et vous corrigez votre virus.
Mais ça veut dire, voilà, mais pour faire simple, est-ce que si on est immunisé aujourd'hui, on est immunisé contre le variant ?
Écoutez, en tout cas, on a des raisons de penser que lorsqu'on est immunisé, on est immunisé face aux variants anglais, oui. Après, il faut toujours être extrêmement prudent, parce que comme on l'a vu, on sait qu'il y a 5% des gens qui vont avoir soit un défaut d'immunité, soit une réponse incomplète, et qui fait qu'on peut refaire la maladie. On sait encore une fois que les cas de réinfestation sont rares mais possibles, et que notamment les cas de réinfestation décrits ont souvent été décrits chez des gens qui avaient voyagé, alors peut-être parce que différents variants ou parce qu'ils sont jeunes et que lorsqu'on est jeune, on voyage plus. Mais on peut penser, en tout cas, aujourd'hui, que ceux qui ont fait la maladie n'ont pas d'urgence à se faire vacciner et que le vaccin qu'on va avoir et qu'on, demain, c'est-à-dire en quantité importante avec tout type de vaccin, nous permettra d'avoir une immunité durable face à tous les variants. Et c'est ça qui prime, parce qu'il n'est pas exclu que dans les mois qui viennent, on ait d'autres variants. Comme vous savez, il y a le variant d'Afrique du Sud. On a parlé du variant danois avec les visons. Et que l'objectif, c'est que le plus tôt on aura vacciné, le plus tôt on aura propagé contre tous ces différents types de variants, y compris le variant dans sa forme sauvage.
Mais une dernière question, l'OMS a dit qu'il n'y aurait pas d'immunité collective en 2021 en s'appuyant sur le fait que les vaccinations prenaient trop de temps. Mais si on se fonde sur les contaminations, est-ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'on peut avoir une immunité collective du fait de l'infection de tout un chacun ?
Alors c'est une bonne remarque, simplement comme vous le savez, on est dans un espèce de paradoxe, c'est-à-dire que pour protéger les uns et les autres, finalement, on freine les contaminations, et fort heureusement, c'est le principe de précaution et qui vise à protéger les individus les plus fragiles, les hospitalisations et les décès. Et donc on sait très bien que si on voulait atteindre l'immunité collective par la contamination, ça prendrait des années. Et on sait de notre côté qu'on est face à une logistique, puisque si les contaminations augmentent, eh bien ça risque de décaler le calendrier vaccinal qui va prendre du temps. Et c'est pour ça que je pense raisonnablement, l'OMS considère que si dans un scénario favorable, dans les pays occidentaux, on a fini la campagne de vaccination d'ici l'automne, eh bien on sera déjà largement satisfait et on verra ce qui se passera en 2022.
Merci beaucoup Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Culture aujourd'hui.
Et merci à vous, Bénédicte Robin. Si Arnaud Montebourg, défait à la primaire socialiste de 2017, avait hésité à soutenir l'insoumis en chef Jean-Luc Mélenchon, engagé dans sa deuxième campagne présidentielle, plutôt que le candidat PS Benoît Hamon, il semble désormais que l'ex-ministre du redressement productif parie sur l'inversement du rapport de force, celui dont le nom est régulièrement cité parmi ceux qui pourraient s'attaquer au pari de rassembler écologistes et gauche en mal d'incarnation après ses dernières défaites, à désormais un mouvement, l'engagement, qui soutient donc sa candidature pour 2022. Ce nouveau parti a été officiellement lancé dimanche soir, au risque, Sophie Delpont, de créer un nouvel embouteillage possible à gauche.
C'est un ancien conseiller d'Arnaud Montebourg qui a créé ce mouvement. Président de l'Engagement, Valentin Priluski, entrepreneur de 33 ans, veut lancer une dynamique.
Arnaud Montebourg peut être candidat. Il en a les capacités, il en a la volonté. Nous, on est là pour lui dire que l'on est derrière lui dans ce chemin.
À l'initiative d'une cinquantaine de proches de l'ancien ministre, il revendique près de 2000 sympathisants, avec l'objectif d'une présence dans 85 départements d'ici le mois de mars pour promouvoir les idées de l'ancien ministre du redressement productif.
Mettre fin à une politique de libre-échange généralisée, de revenir à une forme de souveraineté populaire, que les gens puissent décider vraiment ce qu'ils veulent voir advenir en France, c'est combattre le changement climatique.
Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, regarde cette possible candidature avec circonspection.
Arnaud Montebourg, je ne sais pas exactement quel est le chemin qu'il s'est choisi. Je crois comprendre qu'il a fait le choix qui fut celui de Jean-Pierre Chevènement en 2002, de relier les deux rives, donc la droite et la gauche, autour d'un projet souverainiste. Si tel était le cas, ce ne serait pas mon projet.
Le ton est donné à gauche, alors que Jean-Luc Mélenchon est déjà officiellement candidat, qu'Anne Hidalgo lance une plateforme d'idées et que chez Europe Écologie Les Verts, le maire de Grenoble, Éric Piolle, multiplie les déplacements. La bataille semble se préciser en ordre dispersé.
Connue comme la meilleure élève du Sénégal, prix qu'elle a remporté déjà à deux reprises. Voilà 9 jours maintenant que Diary Sow, 20 ans, élève en deuxième année de classe préparatoire au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris, n'a plus donné signe de vie. Sa trace s'est perdue aux portes d'une résidence étudiante de la capitale. Et c'est ainsi que depuis ce week-end, donc, le visage de cette étudiante arrivée en France il y a un an et demi, après avoir décroché une bourse d'excellence, s'affiche désormais sur des avis de recherche placardés sur les artères de l'Est parisien. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Une enquête pour disparition inquiétante a été confiée à la brigade de répression de la délinquance de la police judiciaire parisienne.
Oui, la dernière trace de cette étudiante longiligne d'1m72 aux cheveux tressés et aux yeux marron foncé remonte au 4 janvier. Elle a badgé pour entrer dans sa résidence universitaire du 13e arrondissement de Paris. Depuis, plus rien, raconte Émile Bakoum. Il est le directeur du service des étudiants sénégalais en France.
Le lycée a fait le nécessaire par rapport, en tout cas, aux quelques recherches et nous a alerté de façon officielle le jeudi 7 pour nous dire que Diary Sow s'est absenté et cette absence commence à nous inquiéter parce que nous n'avons aucun retour par rapport aux mails, aux tentatives de la joindre au téléphone. Je la connais à travers ses excellents résultats scolaires. Il est vrai que j'avais même envisagé de la recevoir suite à la publication de son ouvrage. Mais malheureusement, on était plongé dans ce contexte de la COVID-19. Finalement, on ne l'a pas fait.
Diary Sow avait en effet publié son premier roman « Sous le visage d'un ange » chez L'Harmattan il y a tout juste un an. Un livre sur une famille riche, désunie par des traditions qui résistent au temps. Elle était repartie au Sénégal l'été dernier à l'occasion de la mort de son père et elle avait beaucoup parlé de ce roman.
Merci Anne Fauquemberg. L'État hébreu maintiendrait-il un régime d'apartheid entre le Jourdain et la Méditerranée ? Ou dit autrement, les Palestiniens seraient-ils réduits à l'état de citoyens de second rang par l'occupation dans les territoires ? C'est en tous les cas le constat défendu pour la première fois par une organisation de défense des droits de l'homme israélienne dans un rapport publié aujourd'hui, une accusation accablante et polémique au dernier degré. C'est une correspondance signée Alice Froussard.
Quand Israël s'autoproclame seule démocratie du Moyen-Orient, mais que des milliers de Palestiniens depuis plus de 50 ans vivent sous occupation et ne sont pas égaux, cela veut dire qu'il y a un problème de définition et d'analyse, explique Amit Gilutz, porte-parole de l'organisation israélienne B'Tselem.
Reconnaître la vérité, c'est la première étape pour la changer. Il faut donc appeler le régime israélien ce qu'il est, un régime d'apartheid, qui crée et entretient une suprématie juive sur les Palestiniens qui vivent sur tout le territoire que les Israéliens contrôlent. Et cela reflète les changements qui se sont accumulés sur le terrain depuis des années.
Et cela concerne à la fois le morcellement du territoire, mais aussi les limites d'accès à la citoyenneté pour les Palestiniens, la répression, la non-participation politique, les restrictions à la liberté de mouvement, continue Amit Gilutz.
Quand un groupe contrôle un autre groupe et fait en sorte que ce contrôle se perpétue, c'est exactement la définition de l'apartheid.
Cet argument n'est pas nouveau, c'est celui qu'utilisent les Palestiniens depuis des années, mais c'est une première venant d'une organisation israélienne qui fait ce constat aujourd'hui, à l'aune du débat public.
Il est l'autre Donald Trump, plutôt discret, comprenez, aux antipodes de l'exubérance et de l'impulsivité du président sortant. Pour autant, Mike Pence n'en reste pas moins souvent décrit comme un idéologue fanatique, un chrétien fondamentaliste plus conservateur que l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Quoi qu'il en soit, c'est donc vers lui à présent que tous les regards se tournent. Le vice-président osera-t-il franchir le pas, priver Donald Trump du pouvoir hier soir? Et pour la première fois depuis l'émeute survenue au Capitole, les deux hommes ont repris langue dans le bureau ovale à l'abri des caméras. Une bonne conversation, a commenté un haut représentant de l'administration. En clair, Donald Trump n'aurait pas l'intention a priori de démissionner avant la fin de son mandat, pas plus que Mike Pence n'aurait, lui, l'intention de le démettre de ses fonctions en invoquant le 25e amendement de la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle, une fois l'ultimatum lancé au vice-président dépassé, eh bien les démocrates ont prévu de lancer demain une procédure de destitution. En attendant, bien que de plus en plus isolé, mais aussi évincé de son réseau de communication favori, Twitter, Donald Trump n'entend pas changer ses plans. Il a prévu de se rendre aujourd'hui au Texas pour vanter sa politique d'immigration et la construction du mur frontalier avec le Mexique. Donald Trump au pied du mur, donc tout un symbole. Enfin, à une semaine de son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump en pourfendeur, invétéré du multilatéralisme, semblant bien décidé à tout faire pour rendre plus compliquée une éventuelle reprise des relations bilatérales entre la future administration Joe Biden et plusieurs pays qualifiés d'ennemis des États-Unis, dernière en date Cuba, hier. Ultime contre-pied à la politique de son prédécesseur, le milliardaire a décidé d'inscrire à nouveau le régime Castro sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. Les précisions de Bertrand Galichet.
À l'origine de cette décision, le refus du gouvernement cubain d'extrader vers la Colombie, alliée des États-Unis, une dizaine de rebelles de l'armée de libération nationale après un attentat qui avait tué 22 personnes à Bogota en janvier 2019. Plus généralement, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo accuse le gouvernement cubain d'avoir nourri, logé et soigné pendant des années des meurtriers, des artificiers et des pirates de l'air, tandis que de nombreux Cubains manquaient de nourriture, d'un toit et des médicaments de base. La version de l'administration Trump envers Cuba se traduit depuis 4 ans par un renforcement de l'embargo contre la Havane. Mike Pompeo reproche également au régime cubain de soutenir le président vénézuélien Nicolas Maduro. En arrivant à la Maison-Blanche, Joe Biden pourra certes sortir Cuba de cette liste noire, mais seulement au terme d'un processus juridique long et complexe. La question se posera aussi pour les rebelles houthis du Yémen, placés avant-hier sur la liste des organisations terroristes, en raison de leur proximité avec le régime iranien, alors que Joe Biden veut renouer le dialogue avec les mollahs à Téhéran. Les organisations humanitaires craignent que cette décision paralyse l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, ruiné par la guerre. Autre coup de menton de Donald Trump, la levée des restrictions imposées aux responsables américains dans leur contact avec Taïwan, un défi lancé à Pékin qui brandit déjà la menace d'une riposte.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi perturbé avec de la neige en pleine ou à basse altitude à l'est et de la pluie et des nuages à l'ouest. Le soleil brillera en revanche sur le pourtour méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 2 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.